L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac, qui se cultive toutes les semaines.
Ah mais attends, on est le premier jeudi du mois.
Ah oui, c'est l'actuel.
L'émission féministe pour il, elle et elle.
This time, we will do it by ourselves.
Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
L'acte de procréation est un acte de liberté.
Non una, dimeno, pas une de moins.
Que l'aborto sea legal.
Ah, al patriarca.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'actuel. Salut Carole.
Salut Sophia.
C'est déjà la dernière. Et oui, c'est déjà la dernière et nous sommes tout près de l'été.
Tout à fait. Et on a pensé de vous faire plein de recommandations pour passer un été féministe entre festivals, concerts, lectures. Parce que le féminisme ne part pas en vacances. Ou alors, il part en vacances avec nous.
C'est ça. Et donc, qui est dit été, dit évidemment aussi concert. Donc, le duo Cocagne sera avec nous au téléphone pour annoncer leur tournée d'été, avec quelques dates en Occitanie également.
On vous a également préparé deux chroniques de nos dernières lectures féministes. Parfait à lire pendant nos vacances. Alors, faudra être indulgent, parce que moi, c'est ma première de toute ma vie.
Oui, on sera indulgent, t'inquiète pas, Carole. Et puis, on commence avec une actualité très, très chaude, puisque juin, c'est le mois des fiertés. Et on a donc interrogé le collectif Les Bonnes des Broussailleuses, qui organise la marche des fiertés rurales à Villefranche de Rouergue ce samedi 10 juin.
Oui, et tout de suite, c'est la revue de presse.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix.
Donc pour cette revue de presse, on commence avec le cinéma, avec le festival de Cannes qui s'est conclu il y a quelques jours. Est-ce que tu l'as suivi, Carole ?
Oui, malheureusement, je suis toujours un peu people.
Et oui, et donc il y a pas mal de choses à dire autour du féminisme sur ce festival. Déjà, le film d'ouverture, donc c'était Jeanne Dubarry de Ma Yuen, avec Johnny Depp qui était accusé de harcèlement et violence domestique.
Oui, tout à fait, de violence conjugale envers... J'arrive jamais à prononcer son
Amber
nom.
Heard. Et donc, ouais, un procès qui a été très médiatisé et où on soupçonne quand même que le pouvoir de Johnny Depp a fait qu'il a gagné le procès.
Oui, tout à fait. Il y a eu une vague masculiniste énorme sur les réseaux sociaux qui ont fait descendre sa femme, son ex-femme, aux enfers, quoi.
Exactement, donc un film plutôt controversé pour le début, mais au moins pour la fin, c'est une femme qui a remporté la Palme d'Or. C'est Justine Triet pour son film Anatomie d'une chute. Elle est la troisième réalisatrice à recevoir la Palme d'Or à Cannes, un 75 ans de festival quand même, c'est pas mal. Et c'est la newsletter Les Glorieuses qui le rappelle. Et cette newsletter dénonce également le fait que des éditorialistes, des élus et des représentants du gouvernement, après la victoire de Justine Triet, ont préféré fustiger son discours engagé plutôt que de célébrer sa victoire, une victoire donc française. Dans son discours, en effet, Justine Triet, elle dénonce la répression de la contestation contre la réforme des retraites et on écoute un extrait de son discours.
Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner. On se doit de leur faire de la place, cette place que j'ai prise il y a 15 ans dans un monde un peu moins hostile et qui considérait encore possible de se tromper et de recommencer.
Voilà, c'était donc un extrait du discours engagé de Justine Triet à l'occasion de la remise des prix et à l'occasion de la Palme d'Or, donc elle a remporté. Et voilà, elle a subi pas mal de critiques à cause de son engagement. Et cet épisode, en tout cas, nous montre une fois de plus que le monde du cinéma est dysfonctionnel et de plus en plus de réalisatrices et d'actrices prennent les distances de ce milieu. Un début du mois de mai, Adèle Haenel a annoncé dans une longue lettre publiée sur Télérama sa rupture avec le milieu du cinéma et sa, et je la cite, « complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels ». Elle dénonce aussi, et je cite à nouveau, « la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est ». Suite à cette lettre, c'est au tour de plus d'une centaine d'actrices et de réalisatrices qui signent une tribune sur Libération pour saluer la décision d'Adèle Haenel et dénoncer l'impunité vis-à-vis des agresseurs sexuels dans ce monde. Une tribune donc que vous pouvez retrouver en libre accès sur le site de Libération. Justine Triet, donc on l'a dit, c'est la troisième réalisatrice à recevoir la Palme d'Or et l'Afrique du Sud pourrait bientôt devenir le troisième pays au monde à rendre entièrement légal le travail du sexe. C'est la newsletter Impact de Gloria Media qui le raconte. En décembre, le gouvernement a signé un projet de loi visant à dépénaliser à la fois l'achat et la vente de services sexuels. Les organisations de défense de droits des travailleurs et travailleuses du sexe affirment que la décriminalisation n'est que le premier pas pour assurer la sécurité des professionnels du sexe en ce pays, en Afrique du Sud. Et avant d'être approuvé, le texte devra encore faire face à de nombreuses oppositions, notamment celle du Parti chrétien-démocrate. Et je voudrais aussi rappeler que l'Afrique du Sud est l'un des pays où le taux des violences faites aux femmes est le plus élevé au monde. Et parmi ces femmes victimes, il y a évidemment aussi beaucoup de travailleuses du sexe. D'après une étude citée toujours par Impact, 70% des travailleuses du sexe en Afrique du Sud aurait déjà subi des violences physiques. Et de l'Afrique du Sud, on va vers l'Ouganda où le président Yoweri Museveni a promulgué une loi anti-LGBTQIA+, qui prévoit des lourdes peines pour les relations homosexuelles et pour la promotion, et je cite, de l'homosexualité. Le 21 avril, le président avait refusé de promulguer cette loi et l'a renvoyée devant le Parlement pour que plusieurs dispositions soient révisées. Mais le 2 mai, 341 députés ont adopté une version modifiée de ce texte, l'ont renvoyé au président, qui l'a finalement promulgué lundi 29 mai. C'est Le Monde qui le rappelle. Dans cette nouvelle version, les parlementaires ont maintenu, contre l'avis du chef de l'État, une disposition faisant de l'homosexualité aggravée, et je cite encore, un crime capital, ce qui signifie que les récidivistes pourraient être condamnés à mort. À Ouganda, cependant, la peine capitale n'est plus appliquée depuis des années. En tout cas, Amnesty International a alerté sur les graves atteintes que cette loi représente pour les droits humains et, je cite le communiqué d'Amnesty International, demande à la communauté internationale d'exercer de toute urgence des pressions sur les gouvernements ougandais afin de l'inciter à protéger les droits des personnes LGBTQIA+, dans le pays. Fin de citation. Et on retourne en Europe, pour la précision en Italie, pour parler de droits reproductifs. Le 24 mai, le conseil d'administration de l'AIFA, donc l'Agence italienne des médicaments, a repoussé la décision sur la gratuité de la pilule contraceptive. Pourtant, cette décision avait déjà reçu le feu vert un mois auparavant par d'autres commissions techniques de l'agence. La raison, selon l'AIFA, c'est que, et je cite, « les commissions n'ont pas élaboré d'indications précises sur les tranches d'âge et sur les modalités de distribution de la pilule ». Ce sont des propos recueillis par le site LifeGate. Et après, le quotidien Il Manifeste pointe aussi du doigt le fait que les commissions techniques de l'agence donc, qui ont donné le feu vert sont dirigées par des femmes, alors que le CA est entièrement composé d'hommes, des hommes de droite aussi. Donc je vous laisse en tirer les conclusions nécessaires. Le site LifeGate rappelle également que la loi 405 de 1975 prévoit une contraception gratuite et accessible à tous les publics en Italie, une loi donc qui, de facto, n'est pas complètement appliquée. Et voilà, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Sophia.
Merci Carole.
Rentrons maintenant dans le vif de notre sujet, un été féministe. Et quoi de mieux pour bien le commencer qu'une marche des fiertés ?
Voilà, donc c'est la marche des fiertés qui aura lieu à Villefranche de Rouergue ce samedi 10 juin à partir de 13h avec un village associatif et ensuite la marche va partir à 15h de la place Saint-Jean. D'ailleurs, le planning familial sera présent aussi.
Oui, on espère qu'il va pas y avoir un orage, parce que le stand, on laissera tomber sinon. Mais oui, on sera présents. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y aura des représentants de toutes les antennes. Et voilà, il y aura de quoi discuter. Il y aura notre bibliothèque féministe mobile aussi.
Et voilà, donc nous avons interrogé à ce propos Naïs et Milo du collectif LGBTQIA+, Les Bonnes Débroussailleuses, qui organise cette marche. Et on les écoute tout de suite. Nous sommes avec Naïs et Milo du collectif LGBTQIA+, Les Bonnes Débroussailleuses. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc vous organisez la 3e marche des fiertés rurales à Villefranche-de-Rouergue ce samedi 10 juin, de part à 15h de la place Saint-Jean. Donc il y a de nombreuses animations sur la journée, mais d'abord on va commencer par peut-être présenter votre collectif.
Bah oui, alors les LBD, c'est un collectif qui existe depuis 3 ans autour de Villefranche-de-Rouergue. Quoi, c'est des personnes qui sont autour de Villefranche, qui en fait se sont rendus compte que ils étaient pleins et qu'il y avait moyen de faire de tisser du lien et de faire de la visibilité dans le coin. Donc il y a des personnes qui se sont dit pourquoi pas créer un collectif pour faire une pride. Donc ça a créé le collectif LBD, des bonnes débroussailleuses pour débroussailler les idées reçues à la campagne. Et donc ça a tellement bien marché que ça a continué. Et du coup, on organise des événements dans des bars associatifs pour créer de la visibilité, pour tisser du lien, pour se soutenir, festoyer.
Donc et au départ, oui, c'était vraiment pour organiser la Pride et c'est après que ça s'est un peu pérennisé.
Oui, c'est ça. On organise aussi maintenant des interventions en milieu scolaire pour faire de la prévention, de la sensibilisation et aussi amener du soutien aux plus jeunes. On est aussi en lien avec d'autres associations LGBTQIA+, du territoire et autour. Et voilà, on développe aussi nos actions au fur et à mesure que le collectif s'étoffe.
Ok. Et donc, tu l'as dit, vous vous êtes rassemblés il y a 3 ans. Et ensuite, vous avez organisé donc la première marche des fiertés rurales. Est-ce que vous avez eu la sensation de déranger, entre guillemets, en faisant ces marches, justement, dans des petits villages, ou par exemple que les institutions vous mettent des bâtons dans les roues, ou tout s'est bien passé?
Alors là, la question, elle est pas aidante, mais j'ai l'impression que la première année, ça s'est surtout organisé entre personnes qui habitent le territoire et d'autres qui sont un peu plus loin et qui étaient là en soutien. Mais il y avait, dès la première année, beaucoup de personnes alliées qui n'étaient pas forcément concernées par des questions LGBTQIA+, mais qui sont là en soutien, et c'est hyper important de ça. Après, pour les services de la mairie sont hyper aidants là cette année sur l'utilisation de l'espace et le prêt du matériel. Après, institutionnellement, c'est une question qui parfois peut déranger, mais nous, on essaye de faire ça dans la joie et la bonne humeur, en essayant de faire une manif politique, mais aussi festive. Et j'ai l'impression que la première année, on était peu nombreux, mais c'était plein d'émotions. L'année dernière, on était un peu plus, il faisait hyper chaud, hyper beau. Et ça a été un cortège très, très festif, très coloré. Et là, cette année, on espère qu'il n'y aura pas trop la pluie, qu'il y aura quand même beaucoup de gens et que tout se passera comme on a prévu et que ça sera dans la joie et la bonne humeur. Mmh. Et du coup, la veille de la Pride, il y aura une soirée before avec Submarine FM, Koji, Chapeau. Et ça sera une soirée du coup à la Fouillade à partir de 19h si je me trompe pas, mais il y a moyen de vérifier sur les réseaux. Et ça sera entrée à prix libre et buffet à prix libre aussi. Alors je parle un petit peu fort parce qu'il me semble qu'il y a un tracteur qui passe à côté de la maison, parce que bien évidemment les bonnes débroussailleuses sont à la campagne. Et il y a un peu de derrière moi.
Non mais on t'entend très bien et puis du coup on note pour le 9 juin à la Fouillade. Et pour parler de la marche de fierté donc qui aura lieu le jour d'après le 10, est-ce qu'il y a un focus particulier, un thème que vous souhaitez mettre en avant?
Alors le focus il est sur emmener place Saint-Jean de 13h à minuit, c'est avec bien évidemment le temps de la marche où on sera pas sur la place. Du coup, à 13h, c'est ramène ton pique-nique et on peut profiter de l'espace où il y aura un stand de pancartes, où les personnes sont invitées à venir écrire ce qu'ils veulent sur leur petite pancarte, où il y aura peut-être des propositions. Il y aura du maquillage, une coiffeuse avec son camion, son
barber truck,
c'est ça. Et il y aura le village assaut, avec tout plein d'assauts, comme le planning familial d'Aveyron, Clarté, qui est une asso de Toulouse qui fait de la visibilité pour les personnes trans, les assauts Alerte 12, qui est du coup l'asso LGBTQIA+, de Rodez, Tapage 48, qui est l'asso qui fait de la visibilité LGBTQIA+, à Mende, l'Échappée Belle, qui est une asso plutôt de Marciac Vallon, qui fait de la sensibilisation aux questions de violences sexistes et sexuelles, le Jardin des Passages, qui est une association du Cantal, qui est une ferme queer qui fait à la fois de la culture de la terre et de la culture par des résidences spectacles. Il y aura aussi la CGT, Act Up Sud-Ouest, le PAEJ Carud. Il y aura aussi Diversité Pastel, qui est l'association LGBTQIA+, du Tarn. On aura aussi plusieurs bibliothèques mobiles, la BIM et la BLED. Un coin lecture avec la OOTEC et des stands de sérigraphie, mais je crois que j'ai dit. Et la sérigraphie, non, parce que cette année, là, la nouveauté, c'est qu'on a fait sérigraphié nous-mêmes des t-shirts. Et du coup, on va avoir des hyper belles sérigraphies à l'image des LBD, là, cette année. On a trouvé enfin un visuel des bonnes débroussailleuses. On aura aussi un stand d'écriture de filles queer à la campagne et un stand photo.
Ok, super. Et donc déjà un village associatif hyper riche, mais pour la marche aussi, vous annoncez des animations. Est-ce que ça reste une surprise ou on peut en parler un peu?
On peut dire qu'il y aura de la musique avec des DJ et une batouk. Et après, il y aura des performances, mais ça, on va peut-être vous laisser la surprise pour les performances qui sont dansées et autres.
Bien sûr. Et à propos de musique, le soir, donc vous proposez à partir de 20h30 deux concerts d'électro et de rock avec les groupes Pédale et Tender Panic. Donc ce sont deux groupes queer. Voilà, comment vous les avez trouvés et tout?
Un peu dans le réseau queer d'Occitanie. En fait, c'est des personnes qu'on rencontre sur des événements queer. Et du coup, c'est dans notre réseau, on va dire, dans le réseau des copains.
Et pour revenir un peu à votre collectif, vous êtes donc à Villefranche, il y a un collectif à Rodez, et j'ai l'impression que vous faites beaucoup de liens entre vous, mais ça reste quand même un peu... Enfin, je veux dire, vous avez eu la sensation peut-être de combler un vide dans un milieu rural sur ces questions de genre et LGBTQIA+, ou est-ce que vous avez vu des améliorations ces dernières années?
Moi, j'ai l'impression que oui, clairement, ces collectifs, ils comblent un vide et qu'il y a besoin de communautés, il y a besoin de lieux dans lesquels on peut se retrouver, il y a besoin d'événements qui soient culturels, militants, festifs. Après, oui, le lien, il se fait entre nous parce que c'est pareil, toujours lutter contre l'isolement. Si on est ensemble, on est plus fort, plus forte et on se sent soutenu et on se sent mieux pour développer nos actions et puis tout simplement vivre, se sentir bien. Après, l'évolution sur plusieurs années, je sais pas vraiment si on peut en parler. Je pense qu'il y a aussi des assos qui sont peut-être qui ont plus de passifs, quoi, que la nôtre, qui pourront amener un regard plus rétrospectif. Et 3 ans, c'est encore frais, en fait. Après, on espère qu'il y ait des personnes concernées et des personnes soutenantes à l'IALIR qui soient présentes avec nous comme la première année. Et du coup, on espère, qu'il y ait forcément
de la mobilisation.
C'est la troisième année, quoi. Mmh. Et on voulait juste rajouter par rapport à la marche qu'il y aura aussi une attention sur les personnes à diversité fonctionnelle et ou à mobilité réduite. Du coup, pour les personnes concernées, elles peuvent nous écrire à collectiflbd@trailsup.net pour qu'on puisse mettre en place des dispositifs si besoin. Et qu'il y aura aussi, pendant la marche, des personnes visibles avec un gilet jaune pour assurer la sécurité de la marche.
Ok, super.
On est quand même soucieuse que ça se passe de manière chouette. Et on prévoit d'être équipé en bouchons d'oreilles, de sur la marche avoir un caddie avec de l'eau, de quoi grignoter et un peu de matériel de prévention. Et du coup, on est assez soucieux que sur la marche, il y ait Ça se passe bien.
Bien sûr, bien pour tout le monde et de la manière la plus inclusive possible.
Oui, exactement.
Et on peut citer aussi que vous serez présente et présent, je pense, à la Marche des Fiertés de Lozère, à Mende, le 17 juin.
Oui, moi en l'occurrence, j'y serai.
Super, et d'ailleurs, avec nos confrères et consoeurs de Radio Bartas qui vont animer un plateau radio en direct. Eh bien, si vous avez autre chose à ajouter, peut-être pour le 10 ou le 17 ?
Eh bien, moi, je voulais ajouter qu'il y aurait les Pommes des Terres, qui est un collectif, une cantine collective qui nous fait à manger le soir. Et il y aura des warp à prix libre. Des wraps à prix libre. Et du coup, bah, c'est autant pour soutenir des cantines collective et militante, et aussi pour soutenir l'événement qu'on fait sans subvention. Et du coup, on aura plein de caisses de soutien partout sur le site pour que les personnes qui aient envie de nous soutenir puissent le faire. Et peut-être ajouter qu'on cherche aussi encore des bénévoles. Parce que du coup, c'est quand même un gros événement et qu'on a besoin un peu de toutes les énergies et les bonnes volontés pour monter ça collectivement. Alors voilà, c'est ce samedi, ça arrive très vite. Mais s'il y a des personnes qui sont motivées, elles peuvent écrire à collectiflbd@trailsup.net et on les recontactera.
Super, eh bien on fera passer le mot. En tout cas, merci beaucoup Naïs et Milo du collectif Les Bonnes Débroussailleuses.
Et on nous trouve sur Instagram en mettant les.bonnes.débroussailleuses. Et il y a un événement Facebook aussi qui tourne. Je crois qu'il faut marquer Pride Villefranche de Rouergue pour le trouver.
Super. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Merci de nous avoir invités.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était donc le collectif Les Bonnes Débroussailleuses. Je rappelle la Pride ce samedi 10 juin à partir de 13h et l'adresse mail collectiflbd@riseup.net. Et voilà, Carole, donc on a aussi cherché d'autres festivals.
Ouh là là, oui, et ça a été une recherche un peu fructueuse parce qu'en fait, l'été, il y en a peu. Là, il y en a deux qui se profilent, mais il est à Nantes, ça s'appelle Les Fameuses, le 27 juin. Et il y en a un à Bellevilloise, donc c'est à Paris, le 10 juin, qui s'appelle Burning Woman Festival, sachant que le A de Woman est barré en X. Et voilà, et c'est des festivals qui ont l'air super bien, super inclusifs, super féministes, intersectionnels, tout ça. J'ai quand même sélectionné, parce qu'il y a deux différents types de festivals féministes. Et décolonial, enfin, ça a l'air assez cool, mais c'est loin. Et cet été, il n'y a rien dans le coin. Ou alors, dites-le nous, parce qu'on n'a peut-être pas trouvé.
Exactement,
et
ouais.
En automne, par contre, il y a la Tenaille qui fait son festival tous les ans, peut-être depuis peu. Mais...
Depuis peu, ouais. À Montpellier.
Voilà. En octobre, et c'est un festival d'échange de savoir féministe, je pense en mixité choisie.
Oui, et on a découvert qu'ils font une soirée aussi ce 15 juin, donc à Montpellier, à La Tendresse.
Tout à fait, c'est une soirée aussi en mixité choisie, il y a des concerts je crois, à partir de 18h.
De 18h, ouais, toute la soirée, des concerts, des prises de parole aussi, je suppose. Et donc, le festival reviendra, on l'espère, en octobre. C'est La Tenaille, il y a une page Facebook que vous pouvez suivre. Et au-delà des festivals, il y a aussi le planning familial qui est ouvert, en tout cas, juin et juillet.
Oui, c'est ça, on est ouvert jusqu'à fin juillet, peut-être la dernière semaine d'août, mais quand même tout le mois d'août, c'est plutôt... Les locaux sont fermés. À Millau. Et à Saint-Affrique et à Rodez. Mais par contre, il y a toujours une veille téléphonique. Donc, s'il y a une urgence, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale et on accompagne toujours les IVG quand même pendant l'été. Voilà, grâce à cette veille téléphonique. Et il y a le numéro vert national qui, lui, est toujours... qui ne ferme pas l'été. C'est le 0800 08 11 11, 0800 08 11 11. Où là, vous pouvez appeler, poser des questions et demander des choses urgentes ou pas.
Et oui, donc j'espère que c'est bien noté. En tout cas, on remettra toutes les références aussi sur la page du site. Et on disait tout à l'heure, Carole, que l'été, c'est aussi le temps des lectures. Et oui. À ce propos, tu voulais donc nous partager une lecture.
Une lecture, à ton tour.
Oui, voilà. C'est ta première.
C'est vraiment très improvisé.
C'est juste pour te remettre un peu plus de stress.
Oui, c'est bien. Alors d'abord, le livre est rose. Et d'habitude, je n'aime pas le rose.
mais ce rose tend vers le mauve et me rappelle la couleur des lèvres d'une vulve. Sa couverture est comme tissée, j'aime bien. C'est la marque de fabrique des éditions Divergence. J'accroche aussi sur le graphisme, simple, old school et moderne à la fois, hors temps. Publié en 2000, puis traduit en français en 2022, l'essai philosophique et politique de Bell Hooks, intitulé « À propos de l'amour » est mon petit bijou de mon petit printemps et pour vous de votre petit été. Pour tout vous avouer, chers auditeurs, je n'ai pas lu en entier. La raison en est simple, je me délecte, traîne et apprécie chaque mot, chaque respiration. Les 10 premiers chapitres m'ont bousculé et conforté dans le même temps. Elle a trouvé les phrases, elle a formulé ce dont j'étais persuadée et que je ne retrouvais jamais dans la bouche de mon entourage. Elle a dit que le patriarcat refuse de définir l'amour, ce qui empêche la création d'un art d'aimer. Elle a dit que nos enfants sont meurtris par un manque d'amour et par un mensonge qui consiste à nous faire croire que la maltraitance et l'amour peuvent coexister. Elle a dit que dans les relations d'amour hétéronormées et dans la société en général, les mensonges sont la norme, or ils sont le premier obstacle à l'amour véritable. Elle a dit qu'on avait tous et toutes peur de prendre le risque de laisser l'amour entrer en nous. Je vous dis qu'elle a dit, mais en vrai, c'est ce que je pense qu'elle a dit. Elle n'utilise pas les mêmes mots que moi et j'ai peut-être mal compris. Alors, pour vous faire une idée plus juste, je vais vous lire deux extraits. Imaginez combien il serait plus facile pour nous d'apprendre à aimer si nous commencions par nous mettre d'accord sur une définition commune. Le mot « amour » est le plus souvent employé comme un nom, mais ces théoriciens et théoriciennes les plus avisés se sont toutes et tous rendus compte que nous parviendrons mieux à aimer si nous utilisions le verbe. J'ai passé des années à chercher une définition du mot « amour » qui ait du sens, et j'ai été profondément soulagée le jour où je l'ai trouvé dans l'ouvrage de développement personnel de référence du psychiatre Mr. Scott Peck, « Le chemin le moins fréquenté » aux éditions J'ai lu, publié pour la première fois en 1978. Faisant écho aux travaux d'Eric Fromm, il définit l'amour comme la volonté de s'étendre soi-même dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui. Il développe ensuite cette idée. L'amour, c'est ce qu'on fait. L'amour, c'est un acte de volonté, c'est-à-dire désir et action, conjointement. Et la volonté implique aussi un choix. On n'est pas obligé d'aimer, on le décide. Puisque le fait de nourrir sa propre croissance et celle d'autrui implique un choix, cette définition s'oppose à l'idée communément acceptée d'après laquelle l'amour serait instinctif. J'adore. Je voulais un autre extrait, fort, ouais. Et après j'arrête. Lorsqu'on comprend l'amour comme la volonté de nourrir sa propre croissance spirituelle, ainsi que celle d'autrui, il devient clair qu'on ne peut pas à la fois aimer une personne et se montrer blessant, blessante, maltraitant, maltraitante. L'amour et la maltraitance ne peuvent coexister. La maltraitance et la négligence sont, par définition, les opposés du soutien et de l'attention. Il arrive fréquemment qu'on entende parler de ce type d'homme qui bat ses enfants et sa femme et qui ensuite, au bar du coin, proclame avec passion à quel point il les aime. Si vous en parlez à sa femme, dans un de ses bonjours, il se peut qu'elle vous dise que cet homme l'aime, malgré sa violence. L'écrasante majorité d'entre nous provient de familles dysfonctionnelles, dans lesquelles on nous a appris que nous n'étions pas comme il faut, où l'on nous a fait honte, où l'on nous a fait subir des violences verbales et ou physiques, et où l'on nous a négligés affectivement. Et cela alors même qu'on nous apprenait à croire que nous étions aimés. La plupart des gens considèrent comme une véritable menace le fait d'adopter une définition de l'amour qui ne nous permettrait plus de dire qu'il y a de l'amour dans nos familles. Trop de gens parmi nous ressentent le besoin de s'accrocher à une conception de l'amour qui rend la maltraitance acceptable ou qui, du moins, donne l'impression que ce qui se passe n'est pas si grave. Voilà.
Merci Carole.
Et pour enchaîner avec ce livre que j'adore vraiment et je vous le conseille, voilà, vous l'avez vu.
Ouais, donc pour rappeler, c'est « À propos d'amour » de Bell Hooks aux éditions Divergence, si
tout
je me trompe
pas. Tout à fait, merci.
et je vous ai choisi un petit morceau d'amour et de non-amour à la fois, de Nicole Louvier, en 1959. Je ne suis pas sûre de ce qu'elle chante, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'elle chante son indépendance et sa revendication à ne pas être d'accord avec la forme d'amour que la personne qui la drague lui propose.
On l'écoute tout de suite.
Ne parlez pas tant, Lisandre, quand nous tendons nos filets. Les oiseaux vont nous entendre, mais s'enfuiront des bosquets. Aimez-moi sans me le dire, aimez-moi sans me le dire. À quoi bon tous ces grands mots? Calmez ce bruyant délire, car ça fait peur aux oiseaux. Calmez ce bruyant délire, car ça fait peur aux oiseaux. Bon, vous m'appelez cruelle, vraiment vous perdez l'esprit. Vous me croyez infidèle, ne faites pas tant de bruit. Quoi vous parlez de vous pendre, quoi vous parlez de vous pendre aux branches de ces ormeaux. Mais vous savez bien, Lisandre, que ça ferait peur aux oiseaux. Mais vous savez bien, Lisandre, que ça ferait peur aux oiseaux. Vous tenez ma main, Lisandre, comment puis-je vous aider? Il faudrait à vous entendre vous accorder un baiser. Apprenez-en de bien vite, oui, prenez-en de bien vite, et retournez au pipeau. Mieux vaut en finir de suite, car ça fait peur aux oiseaux. Mieux vaut en finir de suite, car ça fait peur aux oiseaux.
Nous sommes de retour dans l'actuel sur les ondes de Radio Larzac. C'est l'émission où on vous donne plein de conseils pour passer un été féministe. Et il y a évidemment des concerts féministes.
Oui, tout à fait, dont le concert de Cocagna.
C'est ça, donc Lila et Caroline qui sont au téléphone avec nous. Bonjour à toutes les deux.
Adieu.
Donc voilà, vous êtes en tournée un peu partout en France cet été avec deux dates en Occitanie qui arrivent bientôt, à Orthez le 11 juin et à Lescar près de Pau le 24 juin. Et là, il me semble que vous êtes en répétition.
Exactement. On est en répétition avec nos amis catalanes de Tartarellena et Los Arafontanes, avec qui on a fabriqué un spectacle l'année dernière autour de la mémoire des ouvrières textiles. Et plus largement autour des patrons numériques du textile. Enfin bon, on a transformé des patrons textiles en partitions. Et donc C'est ça qu'on répète pour le spectacle de Paris vendredi et de Orthez dimanche.
Super. Et donc justement, tu as parlé aussi de catalan. Et vous chantez en occitan. Vous êtes donc en duo et vous chantez en occitan de manière polyphonique. Et vous dansez aussi. On va peut-être parler aussi de la place que la danse prend dans votre musique. Mais d'abord, pourquoi ce choix vraiment assumé de chanter uniquement en occitan? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Pour nous, c'est un choix politique fort et précis. Et en fait, dans la tradition populaire occitane, on trouve aussi des chants en français. Et des fois, on trouve des chants qui sont à moitié en occitan, à moitié en français. Et tout ça est assez pétri, on va dire, par plein de gens, de générations, de styles, etc. Donc, on pourrait tout à fait inclure dans notre répertoire et du français, quoi, et être plutôt cohérente. En tout cas, ça se défendrait. Mais nous, on a vraiment choisi d'explorer la langue occitane plutôt dans ses variantes dialectales. Déjà, Lila, elle parle la variante d'angodossienne et moi la variante gasconne. Et puis, y a plein de subtilités, quoi, dans les zones de contact qui peuvent nous réunir. Et voilà, pour nous, c'est quelque chose de politique, vu qu'on est dans un contexte français très très centraliste, qui a du mal à faire de la place et à reconnaître les autres langues et les autres cultures. Nous, on a décidé de se positionner sur ça et d'essayer de rendre visible et de rendre faire le plus de place possible à la langue occitane et à tout ce que ça implique politiquement de cultiver la diversité et d'oser s'exprimer en langue minorisée.
Et du coup, en parlant de la langue, comment vous modelez la langue pour composer vos morceaux? Vous prenez des vieux morceaux et vous les revisitez? Vous modifiez un peu le sens?
Oui, alors nous, on passe quand même beaucoup de temps à écouter des archives sonores, des collectages. Ça, c'est quand même nos sources principales, celles qu'on travaille. Et à partir de là, on arrange pour nos voix, pour la polyphonie, aussi pour l'instrumentarium rythmique et bourdonnant qui sont les tambourins à cordes et des percussions pieds et mains, percussions corporelles. Et après aussi, on est souvent confronté au fait que voilà, dans les chansons traditionnelles, souvent ça racontait aussi la société d'avant et avec beaucoup de représentations féminines sexistes et misogynes. Oui. Donc nous, vu qu'on parle occitan et que justement on a envie de s'emparer à notre tour de cette tradition, c'est important pour nous de changer et de réadapter les paroles pour raconter des histoires qui nous ressemblent, en tout cas qui nous plaisent, qu'on assume et qu'on a plaisir à partager dans les concerts.
Et à propos de ça, vous avez appelé votre dernier album Pupute. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien dit.
Oui, c'est exactement comme ça qu'on l'a dit.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est le nom occitan d'un oiseau, la huppe fasciée. Et vous dites que vous avez choisi ce symbole parce qu'il vient questionner notre misogynie et notre rapport à la norme sociale. Pourquoi?
Eh bien, parce que, justement, la question des représentations et de cette image-là de la prostituée, c'est aussi une grande question du féminisme. Et ça nous plaisait, en fait, à travers cet oiseau, à travers une représentation, pour le coup, assez traditionnelle. Enfin, en tout cas, les oiseaux, dans la musique traditionnelle, sont très présents, et même dans le paysage. Et donc, on trouvait ça assez chouette d'utiliser l'oiseau comme une force subversive. Et justement se dire, ben voilà, nous on assume de dire que cet oiseau il s'appelle Pupute et ça nous fait pas honte, et au contraire ça nous donne de la force, parce que l'idée c'est justement, Caro elle parlait tout à l'heure de positionnement politique par rapport à la langue, l'idée c'est aussi d'honorer ce qui a été disqualifié, et donc pour nous le Pupute il va dans ce sens-là.
Du coup c'était un oiseau qui était utilisé pour désigner les travailleuses du sexe par exemple?
En fait, après, justement, il y a plein de... En fait, c'est assez rigolo parce que avec ce titre d'album, il y a pas mal de femmes, et notamment de femmes qui avaient fait des recherches féministes, qui nous disaient que, par exemple, salope, l'insulte salope venait de sale huppe, par exemple. Mais bon, alors après, je sais pas, c'est des choses que nous, on n'a pas vérifiées. Mais en tout cas, ça avait beaucoup de résonance dans ce sens-là. Et que donc, voilà, en fait, cet oiseau, quand on dit, voilà, un drôle de quel nom d'oiseau tu m'appelles, tout ça, enfin voilà, peut-être un rapport entre les noms d'oiseaux, se donner des noms d'oiseaux, les insultes et voilà, les manières de disqualifier.
Mais en tout cas, la huppe, elle a. En fait, l'anecdote qui est reliée quand même à ce choix, c'est que quand on était en train de chercher un peu une cohérence à cet album qu'on devait sortir et tout ça, et lui donner un titre, on a cherché pendant assez longtemps. Et en fait, pendant qu'on était en résidence en Aveyron, trois matins d'affilée, il y a une huppe qui est venue nous voir.
Génial.
Elle se posait sur la fenêtre, quoi. Et moi, c'était la première fois que j'en voyais une d'aussi près. Et donc, on a cherché le nom latin, le nom occitan, etc. Et c'est là où ça a fait tilt.
Ok.
C'était un peu un petit cadeau comme ça. Après, il a fallu une petite année pour assumer de bout en bout. Chacune, que l'album s'appellera comme ça, parce que c'est quand même pas rien. Et voilà, donc c'est, ça a été. Après, c'est un peu dans la continuité aussi du disque d'avant, Yes, où la jaquette, enfin l'image en tout cas, c'est un, un,
une sculpture de clitoris sur un rond-point.
Oui, il était trop bien, j'ai adoré cette pochette d'album.
Voilà, donc on était un peu dans cette lignée.
Et alors, pour revenir sur la danse qui a été évoquée au début, ça a l'air d'avoir une place fondamentale dans votre groupe. Et comment vous voyez ça? Est-ce que c'est un espace social où trouver de la joie et de la force? Enfin, c'est quoi pour vous la danse et pour le féminisme?
Nous, on fait du chant à danser.
Okay.
Donc, depuis le début, nous, ce qui nous plaisait vraiment de faire, quoi, c'était du rythme. Et le contexte du bal, il est très intéressant, vu que le musicien, la musicienne est dans une fonction. C'est-à-dire que les danseurs viennent, les danseuses demandent, quoi. Voilà, on veut ça, on veut ci, on veut ça. Et donc, ça fait un peu artisan, quoi. Artisan, il y a quelque chose de... Ok, on est là pour faire danser les gens. Ouais, il y a une fonction comme ça qui s'inscrit dans quelque chose de social, d'ordre du rituel, qui fait partie intégrante de la société et qui est chouette. Et nous, ça nous permettait aussi d'ouvrir un immense terrain de jeu sur les rythmes traditionnels et d'aller chercher dans tout ça. Donc la danse, elle a toujours été présente et puis on a commencé à en mettre ensuite dans nos clips. Et en fait, il y a toujours cette question du corps, de la corporalité et même la langue, parler la langue, chanter, de la manière dont on ose la faire résonner dans nos corps, dans nos gorges, dans nos bouches, etc. Tout ça, on relie vraiment ça assumer une corporalité, mettre en mouvement les voix et les corps de femmes, quoi, sur scène. On est vraiment dans la représentation, quoi. Aller chercher là-dedans les limites, repousser les limites qu'on se met nous-mêmes ou que les autres nous mettent. Et voilà, c'est un peu ce tout-là.
Et comment vous soutenez des actions féministes à travers votre musique, vos concerts? Vous faites des fois des concerts de soutien aussi, j'imagine?
Oui, alors nous, on fait pas mal de concerts de soutien aussi pour les calendrettes. Pour les écoles occitanes, mais c'est vrai qu'on a été contacté notamment par les amis du Prégrand et de la caisse IVG hors délai du Rouergue, côté Villefranche. Et donc voilà, pour nous c'est aussi une manière de prendre part à ces événements et d'essayer de soutenir tout simplement avec notre musique, avec cette force de rassemblement.
Oui, et du coup, on espère vous voir bientôt dans le coin.
Oui, nous aussi, on espère que l'occasion se présentera.
Oui, en fait, on essaye d'organiser avec Sophia, enfin tous les bénévoles du planning familial de Millau, de vous faire venir en septembre. Meggy, normalement...
Après septembre, oui.
Après septembre, en novembre, oui. Pour que vous veniez soutenir la caisse IVG hors délai aussi, et le planning en général.
On espère que ça se fera. Et justement, comment être un groupe, un duo dans votre cas de musique féministe aujourd'hui, de s'affirmer féministe et aussi faire face, je suppose, à beaucoup d'hommes dans ce milieu qui continuent à être surreprésentés, par exemple parmi les ingé-sons, les techniciens?
Oui, ça c'est sûr que c'est une grande question dans le quotidien. Après, nous, on a toujours été... quelque part dans Koukagne, en tout cas dans l'équipe artistique en non-mixité choisie. Et finalement, ça nous tenait à cœur en fait, d'être maîtresse de nos arrangements, de notre manière de faire ce métier de musicienne. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. je me souviens plus. Mais oui, enfin, en tout cas... voilà, en tout cas, nous, on mène notre barque comme on l'entend.
Ouais, on essaye. Des fois, ça prend un peu plus de temps, mais c'est bien. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que, comme nous-mêmes, nous avons été inspirés par des femmes qui ont posé, qui ont balisé, qui ont ouvert la voie, qui nous ont, quelque part, sans le vouloir... donner des autorisations implicites en fait, de l'inspiration, mais aussi des autorisations. Ah d'accord, moi aussi je peux faire ça. On est hyper heureuse de voir que nous-mêmes, à notre tour, on donne aussi
des autorisations quelque part à d'autres jeunes femmes qui veulent faire musicienne, qui veulent monter des groupes, monter des structures, avancer, faire des disques, faire des répertoires, parler d'autres choses que colporter des récits désuets et misogynes. On est très heureuse de voir des collègues pareil, voilà, se structurer. Et la vraie scène, la scène professionnelle musicale, traditionnelle en tout cas, d'inspiration trad, est en train de se fortifier. Et ça fait vraiment plaisir.
Oui, d'ailleurs, on vous invite à écouter le podcast de Anaïs Vaillant sur ce thème-là, sur le féminisme dans les musiques traditionnelles de France,
ouais,
qui s'appelle Tambour battante.
Super. Ok, parfait.
Merci. On avait... de la FAMDT. Et puis après, en fait, c'est ça que je voulais dire par rapport au féminisme et par rapport au fait d'assumer ce côté-là. Je te parlais tout à l'heure des sources occitanes qu'on travaille. Et il y a aussi pour nous en tout cas, des réflexions permanentes où on va puiser dans l'occitanisme et dans le féminisme. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on se sent assez tranquille de dire que on va chercher dans ces outils-là pour faire avancer nos réflexions et pour faire notre quotidien de musicienne, quoi.
Trop bien. Et alors, votre dernier morceau, Que son oiros, je sais pas.
Que soyero.
Merci. Qu'on va écouter. Vous changez les paroles de la chanson qui parle des femmes comme source de malheur. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, votre version?
Alors, notre version, en fait, se parle plus du tout de la même chose. Ça parle plutôt de la difficulté à passer les douanes. Donc au début, ça disait qu'ils sont heureux les garçons le week-end, qu'ils sont heureux quelquefois pas toujours. Ils perdent leur temps avec leur mille, donc leurs amoureuses, ouais, quoi, leurs amis. Ils perdent leur temps et parfois leur argent. Sous-entendu, si t'as une amoureuse, ça va te coûter cher. Ouais. En frais annexe, en consommable, voilà. et donc nous on a juste changé le mot diumenza, donc week-end, diumenza, et que c'était quoi
la douane,
et ouais, la douane, c'était quoi le mot à la base, et bien mia,
ouais,
les amoureuses, quoi, voilà. Okay. Donc maintenant c'est qu'ils sont heureux les garçons
qui traversent les frontières,
qui ont des visas,
okay,
qui sont heureux, quelquefois pas toujours. Ils perdent leur temps à la douane, ils perdent leur temps et parfois leur argent. Voilà.
Trop bien.
Et on a changé juste deux petits mots. c'est un peu express en plus. C'est juste avant qu'on l'enregistre. On était avant, on n'avait pas trouvé trop de trucs. Puis finalement, on l'a déplacé à cet endroit-là. Voilà.
Super. Eh bien, on va l'écouter, mais avant ça, je voulais vraiment vous remercier, Lila et Caroline, donc de Cocagne. Vous serez en concert tout l'été en Occitanie, ailleurs en France et aussi en Catalogne. Toutes les dates sont disponibles sur votre site cocagna.net, Cocagna c'est avec un H. Et je rappelle aussi donc les prochains concerts à Orthès le 11 juin et à Lescar près de Pau le 24 juin. Merci beaucoup.
Merci.
Et on écoute tout de suite donc Qui sont héros de Cocagne.
Que sou eu, sukandeke, su hei ru ru gar, sukage, su hei ru ru gar, sukandeke, su hei ru ru gar, sukage, su hei ru ru gar, sukande.
Et voilà, de retour dans l'actuel sur Radio Larzac.
Ouais, c'était beau ça.
Oui, très beau ce morceau.
Et alors maintenant, c'est Sophia qui va faire une petite chronique littéraire.
Et oui, la semaine dernière, j'ai lu « Devenir lionne » de Wendy Delorme, qui est romancière, enseignante, chercheuse et performeuse queer. Ce livre, c'est le dernier qu'elle a publié et il échappe vraiment aux définitions. Il est à la fois un traité antispéciste, un éloge aux lionnes, un récit autobiographique d'une jeunesse berlinoise et d'une relation d'emprise, et il est aussi un subtil pamphlet pour retrouver la lionne en soi. Le point de départ, c'est un bestiaire. Combien de noms d'animaux sont utilisés pour appeler les assignées femmes ? Biche, lapine, poule, poulette, cochonne, jument, louve, mais pas lionne. « Je suis un bestiaire », écrit l'autrice, et dénonce, je vais vous en lire un extrait. Comprenez donc le trouble qui peut nous envahir à se faire interpeller tout au long de nos vies avec ces substantifs du règne animalier. C'est là défi toute tentative de raisonnement logique. Je veux dire, comment peut-on être à la fois une chienne et une lapine, un poussin et une lionne, une louve et une morue ? Donc la lionne échappe au bestiaire féminin, dit l'autrice. Peut-être parce que les lionnes vivent dans une sorte de sororité autogérée. Elles chassent à deux ou à plusieurs. Elles se répartissent l'élevage des lionceaux. Alors que le lion, lui, se repose 15 heures par jour et arrive néanmoins à s'attribuer la part du lion, justement, quand la proie arrive, chassée par les femelles du clan. Les lionnes sont aussi capables de zigouiller leur chef de clan quand il prend de l'âge et qu'il est incapable de gérer la survie du groupe. Voilà, donc on apprend vraiment beaucoup de choses sur les lionnes dans ce livre et surtout on découvre qu'elles ne sont peut-être pas si différentes que nous, les humains. Devenir lionne, c'est un livre que j'ai dévoré. J'ai été capturée par l'écriture subtile et haletante quand elle décrit l'autrice la pulsation des nuits berlinoises où elle était venue passer l'été en 2001, ayant moi-même passé un été à Berlin à peu près au même âge que l'autrice. J'ai adoré ses descriptions de la ville et je vais vous en lire encore un autre extrait. La Berlin de mes 20 ans était une ville âpre, vibrante et abîmée. Minérale, aérienne, lardée de cicatrices touchantes à faire pleurer. La ville des deuils et des recommencements, où j'ai dansé pieds nus jusqu'à l'aube dans des bars chromés, saluant la lumière du matin par les grandes fenêtres, les yeux clairs et l'âme purifiée. Une ville gris pâle l'hiver, rose à l'aube du printemps, d'un vert dense un été. Berlin crée cette illusion en juillet que la vie pouvait être éternellement légère, douce et joyeuse, avant de te rattraper fin novembre pour dire « Tu croyais que ça serait facile ? Détrompe-toi ». Mais Berlin sera pour Wendy Delorme, l'autrice, aussi le théâtre d'une relation d'emprise dévorante physiquement et psychologiquement. Elle se retrouve prisonnière du désir de possession de son amant qui lui dévore le corps et la plonge dans un état de lionne en cage qui bouffe ses lionceaux ou se mord les pattes jusqu'au sang à cause de son état de captivité. Sans surprise, lui, l'amant de l'autrice, est dompteur dans le zoo de Tiergarten où Wendy Delorme se rend tous les jours pour admirer une lionne qui semble lui parler et l'appeler. ce sera cette même lionne qui, par son regard muet, lui suggère de partir, de tout quitter et de recommencer une vie hors les cages de cette relation oppressante. Sans vous dévoiler la fin, je peux juste vous dire que l'autrice parvient enfin à libérer sa lionne intérieure, à s'appartenir complètement. Devenir lionne, c'est donc un récit d'espoir et de force, d'introspection et de liberté que je recommande donc fortement pour se reconnecter à notre lionne intérieure, mais aussi à toutes les lionnes sauvages qui sont aujourd'hui menacées d'extinction.
Waouh! Ça donne envie d'être lionne, déjà.
C'est ça. Et oui. Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Et voilà, Carole, c'est déjà la dernière pour cette saison. C'est
mais,
triste, mais on va
c'est
reprendre.
La dernière pour moi, pour toujours peut-être.
Non, mais tu vas revenir, c'est sûr, sur ces ondes.
Oui, un jour peut-être.
Déjà, on peut rappeler que les émissions seront rediffusées cet été sur Radio Larzac.
Excellent. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire. Mais aussi, moi, je voulais donner des petits conseils pour la plage. Alors, en fait, un corps parfait pour la plage, c'est son corps qui va à la plage. Voilà. Donc,
oublions toutes les injonctions.
Voilà, épilation, minceur, voilà. Et franchement, pour m'être baignée habillée, en étant complexée de mon corps pendant depuis des années, je vous arrêtez ça. Voilà. Au pire, allez sur les plages nudistes. Les gens, ils sont beaucoup plus compréhensifs. Voilà.
Merci Carole et merci aussi à toutes les invitées d'aujourd'hui, donc le collectif Les Bonnes Débroussailleuses. Merci à Lila et Caroline du duo Cocagne. Merci beaucoup à Kevin qui était à la technique.
Merci.
Et bien sûr, merci à toi Carole et au planning familial.
Oui, merci à toi Sophia, c'est super.
Ouais. Très belles émissions. Et cette émission est rediffusée ce vendredi à 19h et elle est toujours un podcast sur radiolarzac.org, tout comme les émissions précédentes de cette saison. Merci à vous de votre écoute et très belle continuation.
Bon été.
Sur les ondes et bon été, ouais.